Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1,
15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, c'est autour d'une conversation triangulaire que je vous invite aujourd'hui avec deux acteurs pleins de feu, qui sont également auteurs, scénaristes, metteurs en scène et plus encore, vous allez découvrir tout ça. Patrick Braoudet et Arthur Jugnot mettent carrément sans dessus-dessous le Théâtre de la Renaissance à Paris avec la nouvelle comédie de Clément Michel, Père ou Fils. C'est l'occasion ou jamais de faire avec eux l'école buissonnière.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue dans cette émission, bienvenue à tous les deux.
Merci, bonjour. Bonjour.
Est-ce qu'il y en a un plus bavard que l'autre ?
Patrick, il parle tout le temps.
Il parle tout le temps ? Bon, ben, il faut
il
pas que...
Il m'a passé le flambeau,
là. Va s'en sortir comme ça.
Non, Patrick, non, prend des photos tout le temps. Donc, moi, je vais parler et il va prendre des photos pendant toute
Parce
la
Parce qu'aujourd'hui, je vous préviens, hein, tous les deux, on va convoquer les souvenirs. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce qui vous réunit. Voilà, l'aventure de cette pièce, intitulée donc « Père ou fils », et qui est bâtie vraiment sur une réjouissante interrogation. Que se passerait-il si un père... politicien et son fils, artiste peintre, qui s'entendent pas du tout, se retrouvaient chacun dans la peau de l'autre, donc chacun avec le physique de l'autre, le temps d'un week-end où ils doivent cohabiter avec tous les quiproquos que ça implique. Au cinéma, bah, il existe ce procédé de comédie, il s'appelle le body swap, mais jamais au théâtre il n'a été appliqué. Donc cette pièce convoque, en plus de l'humour, le merveilleux. Elle convoque le surréalisme, c'est ça ?
Au service de l'humour et de l'amour. N'est-ce pas, Patrick ?
Absolument. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un principe de film qui a eu beaucoup aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs, mais qu'au théâtre, il n'y avait jamais eu ça. Je crois que c'est pour ça que Clément Michel a eu envie de faire une pièce où tout d'un coup, les personnages vont s'échanger brusquement. Voilà, c'est pour ça que c'est père ou fils, parce que qui est le père, qui est le fils, parfois, c'est pas si simple que ça.
Voilà, ils se détestent et on leur joue un sort, le destin leur joue un sort, c'est d'échanger de corps. Alors ils doivent comprendre pourquoi ils ont changé de corps, comment revenir dans leur corps, mais ils doivent surtout gérer le quotidien de ce week-end. Et gérer le quotidien, ça veut dire que moi je suis dans le corps de mon père, mais ma chérie vient embrasser le corps du jeune, mais dans le père du vieux, qui se retrouve à devoir embrasser sa bru, avec la mère qui drague le père qui est en fait le jeune, avec le père qui doit faire c'est-à-dire qu'on est dans une multitude de gags et de quiproquos, et en même temps, il faut qu'ils apprennent à se comprendre et donc à s'aimer pour pouvoir avancer.
Ils se débrouillent bien pour quelqu'un de pas bavard, hein, n'est-ce pas ?
Ouais, je
parle
bavard,
au père de théâtre.
Ça, ouais.
Voilà. Bon, alors, le duo que vous formez, il est absolument épatant, mais Arthur, ne me dites pas que pour une pièce qui a pour titre père ou fils, vous n'avez pas eu la tentation, l'ombre d'une tentation de demander à votre vrai père Gérard Jugnot de participer à l'aventure ?
Mais, alors, si, parce qu'évidemment, on se pose la question. Après, avec le recul, maintenant, ça aurait été assez impudique. C'est-à-dire qu'on aurait l'impression que je réglais des choses avec mon père. Alors que pas du tout. Parce que le problème, c'est que quand on voit un père et un fils qui sont dans la réalité, on a tendance à oublier un petit peu les personnages et à penser à l'homme public qu'on connaît. Et l'avantage avec Patrick, c'est qu'on on rentre dans une histoire complète. Voilà, on s'est posé la question et je suis ravi de faire ça avec Patrick.
C'est vrai que peut-être il y aurait eu cette confusion
de
dire
pourquoi tu
est-ce
veux...
qu'on voit
ouais.
vraiment
tu veux régler des choses avec ton père,
ou est-ce qu'on voit deux personnages, tout ça.
Ouais. Ça aurait été un peu compliqué, je pense.
Alors déjà en théorie, quoi de plus différent qu'un homme politique et un artiste peintre si on rajoute là-dessus, j'ai envie de dire, l'abîme générationnel et puis les agacements filiaux, ça devient complètement explosif, quoi, en plus de l'argument de cette pièce. C'est-à-dire que vous êtes à 300% tous les soirs, tous les deux.
Ah oui, il faut...
Ah, c'est une pièce, on est obligé d'être à fond. Ah oui, oui. C'est une pièce très énergique et elle fonctionne dans l'énergie. On est obligé vraiment d'aller à fond. Et c'est un vrai principe de vraie comédie, d'une vraie comédie de boulevard, mais très moderne. Donc il faut y aller vraiment à fond.
Il y a une urgence totale pour les personnages, parce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils sont et ils doivent gérer tout ce qui se passe. C'est un homme politique qui doit faire une interview avec une journaliste très, très importante. Mais donc c'est le jeune qui est dans le corps du vieux, qui ne partage pas du tout les mêmes opinions, qui va faire cette interview. Donc c'est une catastrophe. Tout est une catastrophe, en fait.
Moi, au départ, je n'y croyais pas. Il y avait des premières répétitions. Je disais, mais il manque du texte. Je sors de scène. 8 secondes après, je rentre habillé avec les fringues du fils, alors que j'avais les fringues du père. Je pourrais jamais, c'est impossible. Et tous les deux me disaient, tu vas le faire d'abord en 25 secondes, après tu le feras en 20, après en 15, et tu verras après, tu le feras en 8 secondes. Et c'est vrai qu'il y a un côté complètement incroyable comme ça, qui surprend beaucoup les spectateurs, c'est qu'on sort de scène et on re-rentre complètement habillé autrement, en très peu de temps.
Et le public adhère et a tout de suite compris qui est à l'intérieur de qui.
On comprend tout de suite, et donc il y a une sorte de vraie complicité avec le public comme ça, et une complicité évidemment qui est importante, bien sûr, de nous deux quand on joue aussi. Ça, de toute façon, la complicité entre les acteurs, elle est indispensable. On reçoit ce qu'on donne. Et donc, il faut évidemment avoir cette générosité. Un acteur, c'est quelqu'un qui doit être généreux. Et c'est cette générosité-là, c'est ce qui donne, qui fait que les autres vont donner aussi et que la pièce va aller plus loin encore. Donc
Mais
ça, c'est important.
Permettez-moi cette question, juste avant de faire une pause. Patrick Braudet, Arthur Juniau. Vous êtes tous deux plus que des acteurs, puisque Patrick, vous avez réalisé pour le cinéma des comédies archi-populaires comme Génial, mes parents divorcent, Neuf mois, ou encore la super production Is No Good avec Jacques Villeray et Michael Youn. Et puis vous, Arthur, en plus d'avoir été nommé au Molière, on en parlera tout à l'heure, vous avez signé les mises en scène de pièces qui ont triomphé comme Magicien tout est décrit, qui a été joué près de 10 ans à Paris et dont vous êtes l'auteur, ou encore Le Carton, Les Grands Moyens, Une semaine pas plus, et puis Le Fusible, qui a été joué carrément plus de 400 fois au Théâtre des Bouffes parisiens, ce qui est vraiment très rare. Alors, ma question, c'est comment façonne-t-on un spectacle quand, sur scène, il y a deux acteurs qui, en fait, ont la carrure de deux patrons ?
Moi, quand je suis acteur, je suis acteur. Je décide de faire confiance complètement au metteur en scène. Alors, il peut arriver que le metteur en scène ne soit pas vraiment là et que là, tout d'un coup, on soit obligé, effectivement, de prendre un petit peu en main pour... sauver son personnage et sauver la pièce, tout ça, par exemple, ça peut arriver.
Sauf que là, le metteur en scène, c'est Arthur Juniau.
Et ça n'a pas été le cas.
Qui a excellé, c'est ça ?
Non, mais parce que et David et Arthur savent vraiment ce qu'ils veulent. Et en plus, ils ont drivé vraiment tous les acteurs, je trouve, d'une manière formidable. Donc nous, en tant qu'acteurs, on est en confiance. Et dans là, on se laisse aller, c'est bien.
Europe 1.
Et bien sur l'antenne d'Europe 1 également, on se laisse aller, c'est bien, parce qu'on est en compagnie d'Arthur Juniau, de Patrick Braudet, qui en ce moment sur la scène du Théâtre de la Renaissance à Paris pour Père ou Fils. A tout de suite.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h sur Europe 1. Une conversation à trois voix aujourd'hui. Isabelle Morizet reçoit un duo de comédiens pour une pièce de théâtre de boulevard décalée et décapante.
Paris réussit. Tous les soirs, les 620 spectateurs du Théâtre de la Renaissance à Paris hurlent de rire grâce à la pièce de Clément Michel, Père ou Fils, jouée entre autres par Patrick Braudet et Arthur Juniau, cet après-midi mes invités. Alors cher Patrick, cher Arthur, vous avez mis du temps, l'un et l'autre, à oser assumer votre passion pour le théâtre, puisque vous, Patrick Braudet, vous êtes d'abord devenu vétérinaire, ce qui n'est pas le plus court chemin pour monter sur une scène. Et voir Arthur Juniau, qui avait grandi auprès de l'un des plus grands acteurs comiques de ce métier, vous avez choisi de vous exprimer d'abord comme magicien. Patrick Braudet, sortir diplômé de l'école vétérinaire de Maison Alfort, tout de même, c'est pas rien.
Vous savez, c'était d'abord, avant tout, c'est d'abord une passion. Depuis que j'avais 13-14 ans, je voulais être vétérinaire. C'était vraiment le but dans ma vie. J'adorais les animaux depuis que j'étais tout petit et je ne voyais pas d'autres métiers possibles.
Il paraît que le docteur Klein, le vétérinaire star à la télé dans les années 80, était un ami de la famille, Patrick Braudet, c'est vrai ?
Oui, je pense que je voulais être véto parce que Michel Klein, c'était un ami de ma mère, très proche. Pendant la guerre, ils ont été réfugiés tous les deux à Toulouse, dans le sud de la France. Ils ont passé la ligne de démarcation et ils ont des années. D'ailleurs, Michel a fait ses études vétérinaires à Toulouse pendant ce temps-là. Et pour moi, Michel, depuis que j'étais petit, qu'il venait à la maison, tout ça, il me racontait tous ces trucs de veto. Il soignait le cirque Bouglione, il soignait Thoiry. Il opérait des tigres. Pour moi, être veto, c'était ça.
Vous l'avez suivi chez Grus, chez Bouglione, à Thoiry.
En fait, quand j'ai fini mes études vétérinaires Maison Alfort, en fait, la première clinique où j'ai travaillé, c'est chez Michel. Et Michel voulait d'ailleurs qu'on s'associe. Enfin, mes parents et lui étaient sûrs que j'allais devenir veto, que je reprendrais sa clinique et qu'on s'associerait. C'était le truc qui était prévu comme ça. Donc effectivement, avec Michel, j'ai été intervenir sur des éléphants qui boitaient chez Grus. On a été opérer un tigre chez Bouglione. On a été soigner des élans du Cap et des bisons à Thoiry. Enfin voilà, j'ai
mais quelle première vie magnifique, Patrick Braudet, c'est extraordinaire.
C'était formidable, j'ai passé des moments formidables, ouais.
Alors, veto, ça n'est pas du tout un cursus facile. D'abord, il faut être amateur, car après un bac S, il faut faire une prépa qui regroupe biologie, chimie, physique et sciences avec un niveau en maths très élevé. Voilà. Et puis, après 2 ans de prépa, on intègre l'école. J'imagine que vous avez donc une grille de lecture du monde qui est très rigoureuse, très pragmatique, en fait, pour l'artiste que vous êtes devenu. Avec cette formation de scientifique, ça fait un mariage étonnant.
C'est vrai qu'effectivement, j'ai une vraie formation scientifique et pas du tout littéraire. Et en fait, je me suis rendu compte que cette formation scientifique m'avait vraiment aidé pour écrire mes premiers scénarios, où j'écrivais de manière très rigoureuse en posant les questions, réponses aux questions. Enfin, c'était une manière très scientifique et pas du tout littéraire d'écrire, en fait.
Vous saviez, Arthur, que votre camarade de théâtre, c'était un diplômé en biologie ?
Ben oui, j'ai apporté une tortue quand j'étais petit, elle est morte.
Ah, voyou.
Oui, non, je le savais, mais c'est, à chaque fois qu'il en parle, c'est assez magique, parce que c'est vraiment un parcours qui est tellement loin de celui d'acteur. Et en même temps, ça lui a apporté, je pense, aussi la rigueur du travail.
Oui.
Absolument.
Les acteurs qui ne l'ont pas.
Et surtout,
quand Patrick arrive à une première lecture, le texte il est travaillé, on sent que ça a été bossé. Pas toujours dans la bonne direction, évidemment. Mais... non, mais c'est un bosseur, c'est un vrai bosseur. C'est formidable d'avoir quelqu'un en face qui ne se repose pas sur ses acquis. Et voilà, il y en a. Et donc, c'est surtout ça, je pense, que la rigueur du travail.
Ce qu'on apprend quand on veut être véto, ou quand on veut être médecin aujourd'hui, c'est qu'on apprend le travail. C'est que si on ne travaille pas, si on n'a pas une méthode très rigoureuse de travail, parce qu'il faut emmagasiner énormément de choses, on n'y arrive pas. Donc c'est vrai que moi, à 18 ans, quand j'ai voulu être véto, tout d'un coup, alors qu'avant j'étais un glandeur terrible quand même au lycée et tout, mais tout d'un coup je me suis dit, là il faut une méthode de travail, il faut être rigoureux, sinon je n'y arriverai pas. Et véto apprend évidemment à être très très rigoureux et à rester des heures à travailler.
Alors, Patrick Braudet, c'est grâce à des étudiants de votre promotion qui montaient une pièce de théâtre et qui voulaient absolument vous enrôler, c'est grâce à eux que vous avez connu vos premières émotions sur une scène, c'est ça ?
Oui, alors moi je connaissais vraiment pas du tout le théâtre, enfin très peu, vraiment dans la famille Braudet, le théâtre on connaissait pas tellement. Et en fait, pendant mes années de prépa véto, j'ai travaillé pendant 2 ans beaucoup, beaucoup avec une amie qui, elle, adorait le théâtre. Et on a eu la chance d'intégrer Maison Alfort tous les deux, en même temps. Et puis, quand on est rentré à Maison Alfort, elle a eu envie de monter une troupe de théâtre.
Oui.
Moi, j'étais pas trop pour. J'avais des souvenirs de potes qui faisaient du théâtre en terminale. Et première, c'est horrible. On était obligé d'aller les voir au lycée. C'était terrible. Et elle était vraiment folle de théâtre et tout. Je dis, bon, bah écoute, si tu veux.
Hein, et très jolie, donc non, tu es allé au théâtre.
Non, c'était vraiment ma meilleure amie. Il n'y avait rien du tout d'autre entre nous. C'était vraiment ma meilleure amie. Et elle adorait le théâtre. Et comme on était donc à Maison Alfort, pas loin, il y avait la cartoucherie, donc elle m'a emmené découvrir.
Ah oui, Ariane
Mnouchkine. Il y avait l'âge d'or à l'époque, il y avait 1789, tout ça. Moi, j'ai découvert tout le théâtre finalement en découvrant Mnouchkine et en découvrant aussi, parce que c'était l'époque, tout le café-théâtre, la veuve Pichard, le Splendide.
Oui, c'était la grande époque de l'avènement du café-théâtre.
L'avènement du café-théâtre, le café de la gare. Et donc, moi, j'ai découvert le théâtre, effectivement, avec toutes ces bandes-là, évidemment, dont ton père faisait partie, bien sûr. D'avoir découvert le théâtre et le café-théâtre à ce moment-là. Et ça a été un vrai choc. Et je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas d'écrire une pièce comme on voit au café-théâtre pour la troupe de l'école ? Ça serait plus sympa que de faire un truc de... Et je me suis lancé, j'ai écrit pendant les vacances de juillet et août, ma première pièce.
Et surtout que, voilà. On va révéler tout à l'heure, première pièce dont l'argument, l'histoire est tellement savoureuse qu'elle en est presque improbable. Europe 1. Alors, il faut qu'on fasse une très courte pause. Le chemin, je le précise, qui a fait d'Arthur Junior un comédien, lui, il n'est pas moins romanesque, puisque Arthur, il est d'abord devenu un maître de la magie. Vraiment, vous voyez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, pour tous les deux. Alors, après cette pause, on suit Arthur dans ses aventures. Arthur Junior et Patrick Braudet, mes invités pour la comédie Père ou Fils, qu'ils jouent en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris. À tout de suite.
Europe 1. Il est tout juste 15h21, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de son entretien du week-end. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit les comédiens, auteurs, scénaristes et metteurs en scène, Patrick Braudet et Arthur Junior.
Patrick Braudet et Arthur Junior jouent chaque soir au Théâtre de la Renaissance à Paris. Père ou Fils, comédie électrique de Clément Michel. Ils sont cet après-midi mes invités. Et voilà, on agite la mémoire. Alors Arthur Junior, est-ce que vous faisiez partie de ces ados qui, le mercredi après-midi, aller fouiller dans la caverne d'Ali Baba de la boutique Magic Dream, rue Georges Bernard Shaw à Paris dans le 15e. Vous y êtes souvent allé ou
alors,
pas?
Non, beaucoup plus tard, parce qu'elle a ouvert beaucoup plus tard cette boutique, mais j'allais chez Mayette qui était...
Ah mais oui, Mayette
vers Maubert Mutualité, qui existe toujours d'ailleurs, qui était la caverne d'Ali Baba... C'était assez extraordinaire. Quand on est môme, quand on n'avait pas une solution, qu'on voulait comprendre quelque chose, on allait, et puis du haut de mes 12 ans, j'allais voir le monsieur. Je dis pardon, mais j'aimerais faire ça, comment on fait? Et puis en fonction du bagou du môme, il expliquait ou il expliquait pas, et puis on achetait des livres. Voilà, c'était à une époque où on achetait des livres pour apprendre des tours. C'était chouette, mais oui, c'est des jolis souvenirs.
Et il était sur 12 ans. Alors comment à 12 ans oui. t'as eu ben voilà. l'idée de qu'est-ce qui t'a fait que t'as été intéressé par la magie comme ça? T'as vu un truc spécial?
Alors c'est marrant, j'ai eu plusieurs étapes de magie. Je me souviens avoir vu un spectacle où j'étais quand j'étais môme dans mon école, où il y a un magicien dans le spectacle, et il prenait une baguette magique et elle se transformait en grande baguette magique en 2 secondes. Et donc là, j'ai appris que c'était qu'une canne télescopique, et c'est la première fois que je me suis dit, je veux faire ça. Et donc j'ai commencé, j'ai eu une époque où j'étais môme, où j'avais commencé, et puis après j'ai arrêté la magie parce que je suis devenu ado et que j'étais plus intéressé par le foot et les gonzesses. Voilà, les magiciennes. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré Jean-Luc Bertrand, qui est un magicien avec qui je travaille depuis, et qui m'a rendu fou dans un bar, et j'ai dit je veux faire ça, et là j'ai commencé vraiment à travailler professionnellement la magie.
Mais moi, première rencontre, pardon, oui. je vous interromps, mais ma première rencontre avec Arthur, oui. c'est un truc de magie, en fait, je le connais pas, et on se rencontre dans un théâtre, et puis il me prend les mains, et il me dit, vous allez dire, oh putain, dans quelques secondes. Et puis il me dit, prend les mains, il me parle, tout ça, et tout d'un coup il me dit, quelle heure il est? Et je fais, oh putain, ma montre avait disparu. Et ma montre était à son poignet. C'était notre première rencontre.
Fort, tout de même.
Ah oui, très fort.
Justement, ouais. Arthur Juniau, l'apprentissage de la magie, ça a été une discipline solitaire et rigoureuse, ou bien, vous nous l'avez dit, à partir de 18 ans, vous avez rencontré un magicien, ça a été votre maître. Ça s'est passé comment?
En fait, je m'occupais d'un café-théâtre à Angoulême qui voulait que j'apporte des spectacles. Donc Jean-Luc m'a complètement bluffé, où il a fait voler une cigarette, il faisait du pickpocket, du mentalisme, enfin plein de choses. Et je lui ai dit, mais tu veux pas aller faire un spectacle à Angoulême, parce que je m'occupe d'un petit café-théâtre? Et il m'a dit, moi non, tout seul pas du tout, mais j'ai 2 copains, on fait de la magie de proximité, du close-up, on aime bien ça, on veut bien le faire. Je dis, super, venez faire un spectacle. Et ils m'ont rappelé 3 jours après en disant, mais non, c'est pas faire un spectacle, donc est-ce que tu veux pas allier tes connaissances de mise en scène, et nous on apporte la magie, et on va monter un spectacle ensemble. Et j'ai dit, super, sauf que quand on connaît pas la magie, on est incapable de la mettre en scène, parce que je dis, fais ça. Il me disait, non. Je dis, peut-être tu pourrais faire, non. Et puis au moment où il dit non à ton, pourquoi? Et puis ils ont fait une espèce de petit concilier à bulles, et ils ont dit, il faut qu'on t'explique. Et donc ils ont commencé à m'expliquer tous les tours pour me dire, regarde, maintenant que tu comprends comment on fait, tu comprends qu'en mise en scène, tu peux pas me demander ça, ça ou ça. Et donc ça m'a intéressé, j'ai adoré. Et après, comme un pianiste qui fait ses gammes, pendant 2-3 ans, je n'ai fait que ça. Voilà. Où j'avais un jeu de cartes tout le temps entre les mains, devant la télé, au bistrot. Je faisais des cartes, des pièces, etc.
Il était surpris, votre père, Gérard Juniau, par ce goût, justement, pour cet art si singulier?
Surpris, non, mais il était content, parce que c'est chouette, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il y a assez peu de clivages.
Ça enchante le quotidien.
Il y a assez peu de gens qui disent, oh mon Dieu, il fait de la magie. Non, mais je veux dire, c'est pas de la chasse à cour. On est quand même dans une discipline où, en général, les gens disent, ah, c'est chouette, les mômes adorent.
Mystérieux. Oui. Puis il y a les étoiles. Quand on voit quelqu'un faire un tour de magie, là,
j'avais pas ce côté. Épaté, j'ai toujours été jaloux du mec qui fait de la guitare sur la plage devant un feu et qui chope toutes les gonzesses.
Donc tout à coup, le magicien, il récupère la lumière sur lui.
Oui. La magie, c'était génial. Et ça permet, avec un petit jeu de cartes, tout d'un coup, de rencontrer plein de gens, de discuter. Les gens s'ouvrent à vous. On peut faire le tour du monde avec un jeu de cartes.
Alors, moi, j'étais obligé d'opérer un chat. Pour,
c'est ça.
C'était plus compliqué pour draguer les gonzesses.
Arthur Juniau, votre premier grand spectacle de magie, vous l'avez imaginé et scénographié pour les Folies Bergères en 2005.
Pour la petite anecdote,
dites.
Parce que c'est le spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure qui a commencé dans un tout petit café-théâtre.
Alors
Angoulême.
On va dire ça, mais moi je parlais du très très grand.
Mais c'est celui-là.
Du Triomphe. C'est
ce spectacle-là qui a commencé dans un micro café-théâtre. Et après, on est allé à la Comédie de la Passerelle, qui est un théâtre, oui, qui n'existe plus dans le 20e, qui avait 62 places. On a monté ce spectacle, on l'a fait grossir.
De 62 places, c'est arrivé à combien ?
Et alors, à 62 places, on a réussi à inviter pas mal de directeurs de théâtre, parce qu'on a vu 2-3 articles, les gens aimaient bien. Et puis, c'était vraiment les tout débuts de la magie sur scène. Et tous les directeurs disaient, c'est super, mais chez moi, c'est trop grand, super, chez moi, c'est trop grand, chez moi, c'est trop grand. Et Georges Théré, qui était à l'époque le directeur du Folies Bergère, me dit... Eh ben, c'est trop grand chez moi, mais venez à 19h. Venez à 19h. Faut juste faire un spectacle d'une heure et quart parce que derrière, j'ai un gros show. Et donc, on est passé de 63 places à 1600. Au début, on avait fermé pour jouer que pour l'orchestre. Il y avait quand même 600 places. Et après, ça marchait tellement bien qu'on a ouvert le balcon.
Et vous l'avez joué pendant combien de temps ?
Et on l'a joué 10 ans. Au Folies Bergère, on a joué 4 mois. Oui. Mais après, on a fait 3 tournées. Et puis après, on a joué à la Renaissance où ça joue là. On a joué 2 fois à Héberto, à l'Alhambra, au Splendide. Enfin, on a joué dans plein de théâtres. Et ça a été le début de mon aventure de producteur. Moi, j'ai produit spectacle vraiment avec 3 bouts de ficelle et ça a tellement marché que ça m'a ouvert plein d'opportunités grâce à ça.
Voilà, puisque même le Futuroscope a fait appel à vous pour repenser le spectacle de son parc d'attractions.
Ouais, j'ai fait ça.
Donc, voilà, magicien, c'était la première casquette triomphante. Mais alors, comment êtes-vous passé de l'habit de magicien à celui de comédien à part entière ? Vous aviez envie, vous n'osiez pas ? Ou... Ça s'est dessiné comment, chemin d'acteur ?
Alors, ou un peu de tout ça en même temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai toujours envie de raconter une histoire. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de faire des films, de raconter une histoire. Et je suis allé en Angleterre pour m'inscrire dans une école de réalisation. Et j'avais 17 ans. Et ils m'ont dit, c'est super, mais tu viendras l'année prochaine parce qu'on ne prend pas les mineurs. Donc j'ai dit à mes parents que j'allais faire une année sabbatique. À ça, ils m'ont répondu que ça faisait 17 ans que j'étais en année sabbatique et qu'il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. Et donc j'ai dit, je vais aller dans un cours de théâtre parce que c'est bien de prendre une caméra, de l'acheter en l'air et de se prendre pour Luc Besson. Si on ne sait pas diriger un acteur, ça va être compliqué. Et donc je me suis inscrit chez Périmony et je suis resté au fond. Je me suis dit, je vais regarder comment les profs dirigent. Et au bout de 2 mois, il y a un professeur qui m'a dit « C'est bien, mais ici, c'est pas un coin, on regarde. On a le droit de se tromper, mais il faut participer. Mmh. » Et donc, je suis monté sur scène, j'ai écrit un truc, j'étais mort de trouille. Et au bout de 16 secondes, je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de faire et que je m'étais empêché de me le dire.
Les 16 secondes magiques. Mmh. Allez, on fait une pause et on retrouve tout de suite mes invités, Patrick Braudet, Arthur Juniau.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1, il est 15h32. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Patrick Braudet et Arthur Juniau. Les comédiens sont à l'affiche de la pièce Père ou Fils au Théâtre de la Renaissance à Paris, la nouvelle comédie de Clément Michel.
Alors, cher Patrick, cher Arthur, dans cette conversation, on remonte à la source des souvenirs et des vocations. Arthur vient de nous raconter comment il est passé en fait du statut de magicien à celui de comédien à part entière. Vous, Patrick, on vous a quitté tout à l'heure, chaviré par une expérience de théâtre amateur alors que vous terminiez vos études de vétérinaire. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que l'exercice en fait de votre profession de vétérinaire vous a fourni le sujet, l'argument de la toute première vraie pièce de café-théâtre que vous avez écrite et jouée. Faut nous raconter l'anecdote parce que c'est presque trop beau pour être vrai.
À cette époque, je suis véto. Je travaille donc dans une clinique tous les jours. Et le soir, je vais prendre des cours de théâtre parce que j'ai quand même décidé de faire du théâtre, d'arrêter un jour véto peut-être, mais en tout cas de faire du théâtre. Et j'ai une de mes clientes qui arrive un jour à la clinique en larmes. Son chat avait disparu, il avait été enlevé. Et elle avait une enveloppe, elle avait reçu une enveloppe avec des poils de son chat. Et on lui demandait une rançon de 10 000 francs à l'époque, ce qui est quand même énorme, pour lui rendre son chat.
On est déjà dans un film burlesque.
On est déjà dans
un film
burlesque.
À part le chagrin de la dame.
Et à part le chagrin, et moi je l'écoute effectivement de parler de ça, et en même temps je me dis, mais j'ai un argument pour écrire une pièce de théâtre. Et donc j'écris ma première vraie pièce de théâtre, qui s'appelle Du ronron sur le blinis, qui est l'histoire de jeunes mecs qui enlèvent des animaux pour avoir des rançons. Et cette pièce, en fait, va être la première que je vais jouer vraiment dans un café-théâtre, qui était Le Point Virgule.
Oui, tout de suite, Le Point Virgule vous prend la pièce.
Le Point Virgule prend la pièce.
Conquis.
Et pour moi, c'est vraiment le démarrage, en fait, parce que je connais pas du tout les gens de ce métier. Je suis véto à l'époque.
Oui.
Et là, il va y avoir des producteurs de cinéma.
Oui, mais il faut expliquer qu'en 82, cette pièce fait carrément un des vrais grands succès du Café Théâtre. D'ailleurs, elle a été primée plusieurs fois. À l'époque, vous étiez encore veto dans la journée et vous étiez sur la scène du Point Virgule le soir, c'est
ça ? Oui, absolument. Oui, oui.
Une vie de fou.
Une vie chargée, une vie remplie. Et puis, et je me souviens d'ailleurs d'avoir vu certains de mes clients qui, tout d'un coup, au moment où les gens applaudissaient, dans la salle, je voyais des gens très interrogatifs qui se demandaient qu'est-ce que leur veto foutait le soir sur une scène de théâtre. Ils me regardaient des fois assez méchamment en disant mais qu'est-ce que tu fous là ?
Mieux ça que dans l'autre sens, parce que si le mec est venu te voir, il s'est marré et le lendemain il dit bon mon chat va pas bien avec la main, mais mon dieu, je l'ai vu hier soir, vous êtes un escroc.
Ouais, exactement, vous êtes un plaisantin.
Mais
monsieur,
la cliente dont on avait enlevé le chat contre rançon, elle a appris que son malheur avait fait votre bonheur, Patrick Braoudet. Elle est venue vous voir jouer au Point Virgule?
Non, j'ai pas eu de ces nouvelles après en fait.
Elle est au téléphone tout de suite.
J'ai dit si elle a pas retrouvé son chat, il y avait plus de raison qu'elle vienne à la clinique, parce que je soignais pas les clientes mais les chats en fait.
Bon, en tout cas, les gens du métier sont venus voir le phénomène que vous étiez, des producteurs, des réalisateurs de cinéma, pour qui vous avez commencé à écrire des scénarios. À cette époque-là, en fait, vos parents étaient fiers ou ils étaient désespérés ?
Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas du tout. Et même pendant longtemps, hein, mon père n'y a pas cru. Donc cette pièce a été la première, elle a vraiment bien marché. Et puis après, j'ai eu la chance d'écrire deux scénarios de films qui ont été des gros succès, qui étaient Black Micmac et Le Lieu Beurre Noir. Bernard, qui avait eu d'ailleurs le César du premier film à l'époque, mon père y croyait pas toujours. Après, je fais mon premier film, quand même, Génial, mes parents divorcent, qui marche pas mal. Je fais 9 mois qui marche pas mal. Et quand les gens demandaient à mon père, il fait quoi votre fils ? Il disait, il est vétérinaire. Et c'est avec le remake de 9 mois que tout d'un coup, mon père s'est dit, oh, mais c'est peut-être sérieux ce qu'il fait, ça a l'air de.
Il a fallu qu'il y ait un remake américain avec Hugh Grant, Julianne Moore, Robin Williams, avec Jeff Goldblum, pour que votre père y croie.
Et tout d'un coup, il s'est dit, son cinéma, ça a l'air d'être du sérieux.
Arthur Juniau, bon, vous, très tôt, vous avez choisi de vous consacrer à la mise en scène, et ça a tout de suite fonctionné, mais bon, la comédie, c'est un art qui s'enseigne. La mise en scène, comment en apprend-on les rouages, les secrets ?
On met les mains dans le gadou. On met en scène des spectacles et puis on...
Ça veut dire qu'on en rate quelques-uns ?
Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'école de metteur en scène.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Et donc, il faut aller voir plein de spectacles. Il faut... Je pense que c'est un plus aussi d'avoir joué parce qu'on comprend l'acteur. C'est toujours... Ça me fascine, les metteurs en scène qui n'ont pas été acteurs. On n'a pas besoin d'être un bon acteur, mais au moins d'avoir essayé. Parce que c'est quand même,
je suis fasciné par ça. Ouais.
Non, mais il faut comprendre ce que c'est qu'un acteur.
Comme un chorégraphe qui ne serait pas danseur.
Ouais, c'est ça. Et c'est sur le tas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tenter, travailler, il faut monter les spectacles. Idéalement, le premier, discrètement. Et puis, petit à petit, on comprend. Et puis, on retravaille, on rebosse ses erreurs.
Aujourd'hui, Arthur Juniau, en 2019, vous dirigez combien de théâtres ?
17, je suis. Non, j'en dirige un à Avignon. Enfin, je co-dirige tout, hein. Je ne suis pas tout seul. Mais je m'occupe du Théâtre des Béliers à Paris, à Avignon, et du Théâtre de la Renaissance. Mais avec des associés. Ça fait 3, tout à fait.
Pour le jeune homme que vous êtes. Il y a un souvenir, Arthur Juniau, souvenir à la fois précieux sur le plan professionnel et sur le plan sentimental, que je souhaite vraiment que vous nous racontiez. Vous n'avez joué qu'une seule fois dans votre vie, avec votre père, Gérard Juniau, sur une scène de théâtre. Donc, je dis bien une seule représentation, tous les deux. Et une représentation due au hasard le plus improbable, puisque c'était absolument pas prévu. Tout est parti d'une catastrophe, et puis ça s'est terminé en miracle. Faut nous raconter.
Oui, c'est vrai que c'est une jolie anecdote, parce qu'on jouait, on était en tournée avec le spectacle « Chat en poche » de Feydeau. Et on devait jouer dans les vignes devant 1400 personnes, un festival qui était très chouette. Et moi, c'était pendant le mois de juillet, moi j'étais à Avignon ce jour-là. Et je jouais le soir, on jouait à 21h30, à 2h de route de là. Et je sais pas, il doit être 16h. Et le producteur du spectacle m'appelle en disant Gérard Rinaldi, avec qui je jouais, a eu un souci de santé. Il doit se faire mettre un pacemaker en urgence.
Mon Dieu !
On devait jouer le soir même. Et il me dit, c'est la catastrophe parce que c'est un festival en plein air. Les gens ont acheté les billets physiquement. Ils n'ont aucun moyen de les rembourser. Donc, vu que je sais que tu es à Avignon, est-ce que tu ne peux pas aller regarder autour si tu n'as pas un acteur qui peut lire le texte ? Regarde qui joue, voilà, qui ne serait pas dispo. Tu l'embarques en voiture et puis on sauve la représentation, on explique et l'acteur lit la pièce.
Et là, Arthur pense à qui ?
Et là, donc, je me dis, bon, bah, c'est absolument improbable. Et je me suis dit, bah, je vais appeler mon père qui était vers hier, donc qui était à 2h de route de là. Je lui explique, je lui dis, voilà, Gérard, bon, bah, l'autre a eu un pépin, est-ce que tu veux pas venir lire le texte? Écoute, ça va être le bordel, mais je pense qu'à partir du moment où le rideau va s'ouvrir et qu'ils vont te voir, les gens, ça va les faire marrer, ils seront sympas, ça fera un souvenir rigolo pour les gens. Et puis là, il me dit, bon, non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Enfin, en plus, je lis pas bien, il me faut des lunettes, je sais pas comment. Et il se débine comme ça. Je lui dis, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, je comprends. Puis il raccroche, puis bon, moi je cherche une solution, je me dis, bon, c'est mal barré. Et je sais pas, un quart d'heure après, il y a mon téléphone qui sonne et je vois papa, je dis tiens. Et il m'appelle, il me dit, bon, si moi je le fais pas, je vois pas qui va le faire. Et avec ce grand truc de pas vouloir dire qu'il a envie de le faire, mais dire, bon, allez, je vais te dépanner parce que.
C'est
parce qu'en fait, le challenge le titillait très fort. Et donc il est venu et moi je jouais le spectacle de magie à Avignon. Et donc moi je terminais de jouer à 19h30 pour jouer à 21h30. Donc je ne pouvais même pas répéter. Donc mon père est parti à Fréjus, il a lu le texte une fois mais sans moi, alors qu'on avait toutes les scènes ensemble. Et je suis arrivé, il avait mis le costume. J'ai vu arriver comme
c'est
ça.
Génial,
et l'organisateur du festival me dit, bon, ce serait bien de dire un petit mot. Je dis, oui, ça faudrait bien prévenir. Et là, il me pousse sur scène, je dis, bah vas-y, je fais, ah. Bon, et donc là, je commence à improviser un petit air en disant, voilà, Charny a eu un petit souci. Voilà, donc bon, on a cherché un acteur pour le remplacer. Donc, c'est quelqu'un qui va lire. Donc, je vois les gens qui disent, ah bon, oh. Mais bon, je... Voilà, donc je me suis dans mon entourage, qui sait qui travaille pas, qui pourrait peut-être accepter un petit bifton pour venir lire. Et je me suis dit, bah tiens, il y a mon père qui est là, donc je lui ai dit, viens. Et là, donc il y a 1400 appareils photos qui sont sortis comme ça pour des photos.
Bah, c'est génial.
Et la représentation était très drôle. Et il lisait, et puis il se trompait. Donc, dès que je suis tombé, non, je crois que vous vouliez lire la phrase d'au-dessus. Eh bien, oui, tout à fait. Donc, il y a une espèce de grande impro magique devant 1400 personnes.
Triomphe absolu.
En plein air, les étoiles, des vignes, beaucoup de vin. Et c'était un très joli souvenir.
Ah, c'est génial.
On retrouve tout de suite Arthur Juniau, Patrick Braudet.
Europe 1. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, qui se poursuit avec les comédiens Patrick Braudet et Arthur Juniau. Nous sommes avec Isabelle Morizet jusqu'à 16h.
Patrick Braudet, Arthur Juniau, qui joue au Théâtre de la Renaissance à Paris, père ou fils, sont cet après-midi mes invités. Alors, cher Patrick, en France, y a très peu d'acteurs-réalisateurs dont un film a fait l'objet d'une véritable bataille à Hollywood entre studios pour obtenir les droits d'une adaptation aux États-Unis. Or, vous faites partie de cela, Patrick, puisque l'un de vos premiers films, 9 mois, a fait l'objet d'un remake. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure avec Hugh Grant, Julianne Moore, Robin Williams, Jeff Goldblum, excusez du peu. Mais j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu cette aventure. Est-ce que vous êtes allé sur le tournage dans les studios américains ?
Ah bah oui, bien sûr. J'allais pas rester à Paris et pas aller rencontrer tous ces acteurs que j'adorais. En plus, pour moi, c'était un rêve, c'était fou. Et très vite, j'ai eu Chris Columbus, donc, qui était le réalisateur qui devait faire le film, qui a quand même fait « Maman, j'ai raté l'avion », qui a fait tous les Harry Potter. Enfin bon, Chris, il a
le
une carrière.
Le roi des comédies.
Roi des comédies et des gros films américains, tout ça. Donc, et très vite, il m'a appelé. En fait, c'était super sympa. Il m'a dit « Je vais commencer à faire un premier scénario », qu'il m'a envoyé pour avoir mon avis. Et puis, du coup, évidemment, quand le tournage a eu lieu, c'était à San Francisco.
Ouais.
J'ai été, bien sûr, sur le plateau. Je voulais quand même aller voir. Je me suis dit, je me mets dans un petit coin. Je vais aller voir ce qu'ils font, etc. Tout ça, j'avais choisi d'y aller au moment où ils tournaient la scène de l'accouchement, qui, pour moi, était un souvenir dans un film français, un moment de tournage formidable, épique. Et je voulais voir, ça m'intéressait d'y aller cette semaine-là aussi, d'aller les rencontrer. Puis j'étais sûr qu'il y avait tous les acteurs qui seraient à ce moment-là pour cette
Alors,
scène-là.
Alors, les plateaux de cinéma se ressemblent tous ou pas du tout, en fait, selon qu'ils sont en France ou aux États-Unis ?
Écoutez, ça se ressemble beaucoup. Parce que finalement, un studio, c'est un studio. Ce qui change, c'est les tables régies aux États-Unis. C'est énorme. Il y a des pizzas toute la journée. Des pizzas à volonté toute la journée.
Et combien de temps de tournage aux États-Unis par rapport à toi ?
Je crois 17 semaines de tournage. Moi, j'en avais eu 9, je crois.
C'est ça la différence aussi.
Le c'est la différence.
Non, mais il y a une différence. C'est vrai qu'à un moment, ils vont tourner et tout. Et tout d'un coup... il y a Chris Columbus qui s'arrête, qui dit mais je vois une trace, il y a une trace sur le mur derrière là, faudrait le repeindre avant. Il s'arrête, il y a l'équipe qui revient, ils repeignent le mur, puis ils attendent que ça sèche avant de, ouais. avant de refaire le plan, tout ça. Non, c'est évidemment, il y a d'autres moyens, mais le travail, c'est quand même finalement, c'est entre le metteur en scène et les acteurs, c'est là que ça se passe. Hein, de toute
mais
façon.
Alors, à votre tour, Patrick Braoudé, il y a quelques années, vous avez eu le bonheur de diriger une super production de près de, je crois, 23-24 millions d'euros en réalisant au cinéma, on va dire le rêve de Goscinny, c'est-à-dire en tournant It's No Good avec Michael Youn, avec Cadmérade, au
du
Maroc.
Dubosc, Villeray.
Voilà, ouais. Justement, j'allais y venir à Jacques Villeray. 8000 figurants donc au Maroc, des trucages absolument irréels, et puis le regretté Jacques Villeray. Dans votre album photo, ce film-là, il a une place particulière.
It's No Good, c'est comme un train électrique, vous savez, de môme, et là on te dit choisis ce que tu veux. Tu veux la gare, tu veux le passage à niveau, tu veux rajouter des trucs. Alors évidemment, le budget, il n'est pas non plus incompressible. Il y a un moment où il faut faire attention. Mais tout d'un coup, j'avais le droit d'avoir des charges de chameaux et de cavaliers dans le désert qui attaquaient le palais, d'avoir un éléphant avec un dôme au-dessus, là, avec Jacques Villeray qui était
au-dessus. Mais t'as dû le soigner, ça, qui est chiant.
Il fait un truc sur les genoux. Non, mais c'est vrai, c'est un rêve de môme de faire un film de mille et une nuits comme ça, avec autant de... Il y avait 1000 costumes à fabriquer, autant d'armes. Tout devait être dessiné avant pour le film. Pour un metteur en scène, en tout cas, moi, comme metteur en scène, c'était un très grand moment de préparation de film.
Et ce film a été accueilli comme vous l'espériez ?
Et ce film, écoutez, il a fait 2 500 000 entrées, ce qui était pas mal. On s'attendait un petit peu à plus, mais... Il y a eu un événement très douloureux quand même.
C'est la disparition de Jacques Villeray, n'est-ce pas ? Quelques jours avant la sortie du
Jacques
film.
Jacques est mort une semaine avant la sortie du film. On venait présenter une comédie dans toutes les promos. Et puis, Michael Youn, évidemment, qui faisait la promo, il pleurait. KDO, il pleurait. Moi, j'ai dû faire un dimanche chez Drucker. Pour parler du film, et puis Michel commence à parler de Jacques et de machin, etc. Et je pleure autant aussi. Et donc c'était compliqué de vendre une comédie en pleurant. Et il y avait une sorte de tristesse comme ça autour.
Alors, Patrick Braoudé, Arthur Junior, vous êtes tous les deux des personnages étonnants, effectivement, parce que de vies différentes additionnées, et les nombreuses vies d'Arthur, elles sont pas moins impressionnantes. Vous aviez quel âge, Arthur, quand vous avez monté votre boîte de production, L'Art d'en faire, qui immédiatement a produit de gros spectacles qui ont triomphé? Vous aviez quel âge?
22, 23 ans.
22 ans. Non mais c'est rarissime. 22 ans. Comment fait-on oublier son très jeune âge quand on est un producteur de 22 ans? Il faut être forcément meilleur que les autres, c'est ça? Et puis comment on va parler aux banques à 22
ans?
Ah
bah on parle pas aux banques. Bah non, on parle pas aux banques. Moi, le premier spectacle que j'ai produit, c'était, on en a parlé, Magicien, tout est écrit. Et c'est grâce au... Je dois beaucoup à Georges Terré, qui était le directeur des Folies Bergères, parce qu'il m'a présenté un attaché de presse à qui j'ai dit, bah, on n'a pas d'argent. Il m'a dit, c'est pas grave, tu me paieras si ça marche. Il m'a présenté une boîte de communication à qui j'ai dit, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, bah, tu nous paieras si ça marche. Si ça marche pas, tu me paieras dans 5 ans. Et donc, on a présenté plein de gens comme ça qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait des crédits vendeurs, qui m'ont aidé. Et jamais aucune banque m'a aidé.
Et c'est ça, pardon, hein, mais parce que c'est important ce qu'il dit. Je trouve que c'est formidable parce qu'il y a des gens dans ce métier qui, effectivement, aident profondément, aiment. Et aident. Et moi, j'avoue que j'ai la chance. Si je fais ce métier, c'est dû uniquement à un homme. Quand je vous parlais de la pièce au point virgule du rond sur les Blinis, cette pièce, elle commence en mai 81, en même temps que la campagne électorale. Donc, il n'y a aucun critique qui peut faire passer des trucs au cinéma, dans les journaux. Donc, mai, juin, juillet, on commence. On a des fois 2 personnes dans la salle. On joue quand même, mais il y a pratiquement personne. Et en septembre, on recommence et tout, ça devient dur. Et le directeur du point virgule, Christian Varini, il aime le truc. Il me dit, Patrick... c'est vachement dur parce que vous avez personne alors que j'adore la pièce. Il me dit, je te garde parce que j'aime cette pièce, elle doit marcher, c'est pas possible, je la garde. Et tout d'un coup, la pièce, elle décolle. Et c'est un succès, et c'est le succès de l'année 82, etc. Tout ça, et ça lance ma carrière. Mais sans Christian Varini, un mec, il dit, bon voilà, au bout d'un mois, c'est fini, adieu, et je fais pas ma carrière.
Et c'est fou parce que, enfin, je dis ça, c'est moralisateur, mais y a, pour les gens qui nous écoutent, vous avez le pouvoir. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont le pouvoir de changer des vies. Et il faut le faire, il faut essayer. Voilà, c'est incroyable. Vous avez le pouvoir, parfois, vous ne vous rendez pas compte, juste d'aider quelqu'un et de changer entièrement sa vie. Et nous, on nous a changé nos vies. Donc, si vous avez le pouvoir, essayez de le faire vraiment.
On se retrouve tout de suite avec Arthur Julien et Patrick Braoudet.
Europe 1. Il est 15h53, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin. Oui, c'est la dernière partie sur Europe 1, en compagnie toujours d'Isabelle Morizet et de ses invités, les comédiens, auteurs, scénaristes, metteurs en scène, Patrick Braoudet et Arthur Jugnot, venus parler de leur actu théâtre cet après-midi.
Ils ont de la chance, les 620 spectateurs du Théâtre de la Renaissance à Paris. La chance de pouvoir, chaque soir, applaudir mes invités cet après-midi, Patrick Braoudet et Arthur Jugnot, qui jouent en ce moment, père ou fils sur scène à la Renaissance. Alors, vous êtes tous deux acteurs, auteurs, scénaristes et metteurs en scène. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il est plus difficile d'écrire une bonne pièce que de bien la jouer ?
C'est plus facile de planter son clou.
Mais c'est plus facile de faire un sandwich avec du beurre que sans beurre. Sinon, il est sec.
Auteur.
C'est compliqué de jouer bien une mauvaise pièce, je pense.
Qu'est-ce que t'en penses ? Tout ça, c'est un travail différent à chaque fois, mais qui est bien essentiel. Sûr. Et Clément Michel, il a écrit une pièce formidable. Il y a vraiment des situations incroyables, des rebondissements, des dialogues vraiment percutants. Et c'est un vrai auteur. Et on a la chance, en tant qu'acteur, d'avoir à jouer quelque chose de formidable et d'enthousiasmant.
En matière de comédie, est-ce qu'il existe des ingrédients typiquement français qu'on ne retrouve pas dans les pièces anglo-saxonnes ?
Qu'est-ce que tu en penses ?
Vous allez souvent voir des pièces à Londres, Arthur.
Ouais.
Mais je pose la question parce que je sais ça.
Oui, mais assez peu des comédies.
Non. Qu'allez-vous voir à Londres alors ?
Je vais voir les grosses comédies musicales. Moi, j'adore
c'est
ça.
C'est vrai.
Ah ouais. J'ai été bercé beaucoup par ça.
Mais alors, ce sera le prochain chapitre, j'aime la comédie musicale ?
Non, parce que vraiment, je chante comme une patate. Mais j'aime les spectacles de mime, les concerts, l'art contemporain. Je suis très attiré par plein de choses. Et la comédie musicale à Londres, ils savent faire vraiment des shows incroyables.
Ouais, la comédie musicale, vous pourriez la mettre en scène et pas forcément égosiller sur scène.
Peut-être que je ferai ça un jour.
Bon, l'avantage d'écrire pour le théâtre, en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est moins coûteux à monter qu'un film. Mais il n'empêche que le cinéma fera toujours rêver les auteurs. Alors, il en est où votre prochain film, Patrick Braoudet ? Parce que ça fait quelques années que vous, l'ancien vétérinaire, vous rêvez d'un grand film animalier.
Ah, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais adoré faire un grand film avec plein d'animaux. C'est pour ça que quand j'ai fait Fils de Goût, il y avait des éléphants, des dromadaires, je me suis éclaté avec tout ça, des grenouilles.
C'est pour ça qu'on
pourquoi vous parlez à l'imparfait ?
Peut-être. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut vraiment à tout moment décider de ce qu'on va faire de sa vie et de faire des choses. Donc peut-être un jour, je ferai effectivement un vrai film animalier. Bien sûr, ça reste, les animaux restent ma passion.
Un film animalier dans les océans, dans les airs, dans la jungle, les déserts, les montagnes, au fond des forêts, de nos campagnes.
Partout. Alors moi, j'adore la mer. Voilà, je suis un fou de poissons et de tout ce qu'il y a dans la mer. Tout ça, je fais de la plongée et j'adore ça. Mais
c'est chiant à diriger une crevette.
Mais j'adore vraiment tous les animaux. Je me régale d'ailleurs d'aller voir tous les films que Perrin a fait. Moi, je l'envie d'avoir fait les films sur les oiseaux, oui. les films sur la mer, le manchot, empereur, machin, tout ça. Je trouve ça génial.
Vous avez déjà une fois radicalement changé de vie en passant de vétérinaire à acteur. Vous pourriez à nouveau vous transposer ailleurs, autrement ?
J'ai déjà commencé un peu, en fait. Ça fait 4 ans que j'ai une autre vie qui a commencé.
Laquelle ?
Qui est une vie de photographe, en fait. Je fais beaucoup d'expos de photos. Et ça, c'est vraiment une personne qui, un jour, a vu mes photos et m'a dit « Mais il faut que tu exposes. » Et elle m'a forcé à exposer mes photos. Parce qu'on revient...
Gilbert Montagnier.
Devant une expo de photos de Ray Charles. Et cette personne, elle m'a poussé. Et maintenant, je fais régulièrement des expos de photos. Donc, c'est vraiment une autre vie.
Avec un style assez singulier, hein. grâce au zoom, grâce au flou.
Grâce à Parkinson, je bouge beaucoup et ça fait flou.
Non, mais Claude Lelouch, par exemple, dit que vous êtes un photographe impressionniste. C'est ça, vous êtes l'impressionniste du numérique.
Ouais, alors c'est une formule de Claude, effectivement. Claude, qui est un peu mon papa de cinéma, c'est vraiment lui qui m'a un peu incité à monter une production, à produire un film et tout ça. Il est venu voir une de mes expos un jour à Deauville. Et il m'a dit, mais tu fais de l'impressionnisme numérique, il a le sens des formules, il est formidable pour ça. Et c'est vrai que c'est une formule que j'utilise maintenant, parce que c'est de l'impressionnisme, mais de l'impressionnisme d'aujourd'hui, pas de l'impressionnisme d'avant. On a l'impression que c'est des peintures, mais c'est vraiment de la photo, et c'est fait à la prise de vue. Et
voilà. Il y a une expo en ce moment ?
Il y a la semaine prochaine une inauguration le 29 octobre. Ouais.
Donc
alors, c'est dans un centre qui va être inauguré, qui s'appelle le Centre européen du judaïsme, qui est dans le 17e, qui est un immense bâtiment, qui va être inauguré par le président Macron en personne. Oui. Et on m'a demandé d'exposer des photos pour cette inauguration.
Eh bien, je n'avais pas tort de vous poser cette question sur l'autre vie, la vie parallèle. Quant à vous, Arthur Julliot, j'imagine que vous avez encore beaucoup trop de projets en tête à écrire, à mettre en scène et à produire avant d'envisager un jour peut-être une autre vie. Mais d'ailleurs, en ce moment, le projet qui occupe vos journées, alors que chaque soir vous jouez au Théâtre de la Renaissance à Paris, c'est lequel ? Puisque vous êtes un hyperactif.
J'en ai plusieurs. Non, on vient de reprendre un spectacle de magie qui s'appelle Magic Box, qui joue au Splendide tous les jours à 19h. Et voilà, là, c'est le dossier du moment.
C'est le dossier du moment.
C'est le dossier du moment.
Et sinon, pour les mois qui viennent,
on va jouer, par exemple. On joue pendant 3 mois. Après, je pars à Bruxelles monter un spectacle. Et après, je pars en tournée avec un spectacle que j'ai fait l'année dernière. Donc là, je suis au théâtre pendant un an.
Au théâtre pendant un an. Alors, au théâtre, jouer tous les soirs pendant un an un rôle tragique, ça peut impacter le mental de l'acteur. En revanche, jouer une comédie comme père ou fils, ça écarte totalement les antidépresseurs, n'est-ce pas ?
Oui, là, on se marre bien.
Hein, franchement.
Clairement, on est bien.
Voilà. Et puis, on a pu effectivement vérifier que ça fonctionne excessivement bien entre vous. Patrick Braoudé, Arthur Junior, il ne faut pas rater cette nouvelle comédie de Clément Michel au Théâtre de la Renaissance. Chaque soir, père ou fils. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je ne sais toujours pas lequel est le plus fou des deux.
Ma mère, c'est ma mère.
La prochaine fois, alors, on l'invitera. Merci infiniment. Merci. À bientôt. Et puis, je rappelle, bien sûr, que cette conversation est à réécouter en podcast. À bientôt. Europe 1.